Bonjour, je m'appelle Marwenna White et je suis ici à l'Université de Toronto dans le bureau du président et je vais avoir une discussion maintenant avec Pierre-Marc Johnson qui vient de nous parler sur le sujet de la globalisation et le commerce dans le monde aujourd'hui. Alors, bienvenue.
Bonjour.
Bonsoir. Alors, vous avez commencé votre présentation en parlant des événements à Seattle. Et j'aimerais vous demander comment cela avait affecté le processus là-bas.
Seattle, les gens sont allés dans la rue pour manifester. C'est pas tellement le fait qu'il y a eu des casseurs, des gens qui ont brisé quelques vitres, qui était la chose importante. Ce qui était important, c'est qu'une partie de la société civile qui faisait connaître son insatisfaction ou sa frustration dans les négociations commerciales. Et en pratique, ça a enrayé le processus. Non pas le fait qu'il y avait des gens dans la rue, mais l'importance de ce qu'il y avait derrière cette frustration des citoyens a amené les ministres, les hommes et les femmes politiques, surtout des pays occidentaux, à se rendre compte que ils ne pouvaient pas continuer à négocier les questions de libéralisation du commerce sans tenir compte de l'appui nécessaire de la société civile dans les démocraties à ce processus. Et c'est cet appui qui est effrité, ou enfin qui est remis en cause par ces manifestations. Donc ça nous oblige à nous poser toutes sortes de questions sur ce qu'est la mondialisation.
Alors, vous avez dit que la société civique, ça a un grand impact sur les événements. Et aussi la globalisation. Alors, il y avait un mouvement, vous avez dit, de beaucoup de choses comme les idées, les personnes. Alors, qu'est-ce qui arrive après cela, avec la technologie et les choses qui vont transmettre des idées?
La mondialisation, d'abord, c'est sûr, c'est l'augmentation de la circulation des biens. C'est le commerce des biens. On fabrique des choses, on les envoie outre frontières. Des gens fabriquent chez eux et les envoient chez nous. C'est le mouvement du capital, les investissements, le marché du change, parce que quand on achète un bien d'un autre pays, il faut le payer dans cette monnaie, donc on achète de l'argent de ce pays sur d'autres marchés pour être capable de payer ce pays. C'est aussi le mouvement des personnes. Il y a beaucoup d'immigration dans le monde, il y a 140 millions de personnes qui ont le statut d'immigrants. Et qui vivent en dehors de leur pays. C'est le mouvement des idées par la télévision, et c'est le mouvement qui vient avec les nouvelles technologies de l'information. C'est la télévision, mais c'est aussi la capacité de traiter des milliards de données presque simultanément, et qui font que c'est l'économie entière du monde qui est en train de changer. La mondialisation, c'est aussi la présence de nouveaux acteurs. Alors que les gouvernements ont accepté, parce qu'ils luttaient contre le déficit, de donner un peu plus de pouvoir aux pouvoirs locaux. Et puis, par ailleurs, ont accepté de conclure des ententes internationales dans lesquelles ils restreignent leur capacité d'intervenir et de subventionner, par exemple, les industries ou d'établir des barrières tarifaires. Les gouvernements acceptent, dans le fond, de jouer un moins grand rôle en faveur du commerce. Bien, il faut se rendre compte que ça permet à des acteurs nouveaux d'émerger. Il y a évidemment les grandes sociétés multinationales qui ont beaucoup de poids parce que leur intérêt est là. La circulation du capital, des biens, l'expansion des marchés. Mais aussi la société civile, les organisations non gouvernementales, des citoyens qui coopèrent souvent grâce à l'Internet d'un pays à l'autre. Moi, je l'ai vu dans la Convention sur la désertification des ONG d'Afrique, de France, des États-Unis, du Canada, qui ensemble élaboraient des projets d'intervention pour que la Convention mondiale sur la désertification reconnaisse dans son texte l'importance de l'activité de la communauté en matière de lutte à la désertification. Et ils ont réussi à faire mettre dans un texte international des dispositions qui font que les gouvernements reconnaissent que des citoyens qui se regroupent, il faut les écouter. Il faut les entendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire nécessairement tout ce qui nous demande. Quand on est au gouvernement, il faut savoir les écouter, les entendre, et souvent les encourager, parce que parfois la solution au problème en matière agricole, mais il est entre les mains des communautés, beaucoup plus que des fonctionnaires ou des grands appareils d'État. Donc, la mondialisation ou la globalisation, comme on dit, c'est tout ça, c'est pas seulement le mouvement des biens. Et c'est finalement des préoccupations en matière d'environnement. Les changements climatiques, si la pollution qui cause des changements climatiques, le réchauffement global et toutes ses conséquences, c'est pas important d'où ça vient. Ça peut venir de Chine, d'Inde, de chez nous, d'Afrique. Le phénomène, il est là, il affecte tout le monde. Donc, ça devient le problème de tout le monde. La globalisation, c'est de se rendre compte que la protection de l'environnement, ce n'est pas seulement un souci ou une valeur que les gens ont, mais c'est aussi une nécessité imposée par la nature, la pollution de l'air, par la nature de la surpêche des océans et de la pollution des océans, et par la nature de ce que représentent les grands phénomènes comme celui de la désertification, c'est-à-dire la perte de la richesse des sols à cause de la sécheresse, partout à travers le monde, pas seulement en Afrique. Donc, ce sont des problèmes globaux. Et ce que je prétends, c'est qu'on ne peut pas seulement négocier les questions de commerce sans tenir compte de ces autres dimensions. Et qu'il faut, quelque part, que les gouvernements négocient non seulement des instruments de libéralisation du commerce, mais aussi des instruments qui protègent les droits de la personne, qui voient des meilleurs transferts en faveur des pays en voie de développement et qui protègent l'environnement.
Alors, parce qu'il y a cette globalisation, est-ce que c'est possible, est-ce que selon vous, de concilier les aspects environnementaux avec le commerce et les institutions qui existent?
Je suis convaincu que c'est possible. Cela dit, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, ça va coûter cher et ça va prendre du temps. Mais comme tout ce qui vaut la peine d'être fait, il faut y mettre du temps. Je pense que c'est possible de réconcilier ces préoccupations. Je vais vous donner un exemple très simple. Le Canada s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre qui causent le réchauffement global dans le cadre de la Convention sur le changement climatique. En pratique, il y a un peu de difficulté à le faire. En parallèle, il y a une convention qui s'appelle la Convention sur la désertification et qui prévoit que les pays les plus touchés, notamment les pays d'Afrique, élaborent des plans pour combattre l'avancement du désert ou la détérioration du désert. Dans ces plans, il y a la reforestation. Or, la reforestation, ça sert aussi à être un capteur de CO2. En d'autres termes, les changements climatiques, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre. Et on augmente les gaz à effet de serre en consommant des combustibles fossiles, du pétrole, de l'essence, du gaz. Mais en même temps, on peut capter le carbone en augmentant la superficie couverte de forêt. Or, la superficie couverte de forêt en Afrique peut aider à régler aussi des problèmes très importants de désertification. Donc, le Canada, en aidant certains pays africains à reboiser des terres, non seulement aide l'Afrique, non seulement fait une activité qui est pleine de bon sens pour combattre la désertification, un énorme problème d'environnement, mais en même temps, il répond à une partie de ses engagements en matière de changement climatique. Il y a moyen comme ça de trouver des combinaisons gagnantes entre les préoccupations de nature commerciale, les préoccupations autour des grands problèmes comme l'énergie et les préoccupations environnementales.
Okay. Je vous remercie encore une fois pour votre commentaire de foi.
C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup.